je vous j'ai pas eu le temps de vous faire des questions. J'étais un peu pris de court, hein, donc j'aurais bien aimé vous donner des questions dimanche, comme on l'a fait. Mais voilà, on va voir cette étude, et puis après, Dieu voulant, je vais disparaître pendant quelques semaines. Pour réapparaître, toujours Dieu voulant, vers la mi. Je crois que ça va être le 20 août. Donc je vous invite à regarder on est dans quel épître? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? 1 Timothée, et on est au chapitre 2. Oh non, on est au chapitre 2, on n'est pas encore au chapitre 3. Pas aller trop vite, hein. Il y en a qui veulent enjamber certaines choses, peut-être, hein. Alors, chapitre 2, on va lire tout le chapitre 2. Tout le chapitre 2. Plutôt le chapitre 2 jusqu'au... Ah non, je suis dans 2 Timothée. Ça me paraissait bien long, là, mais je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre. Il y a 15 versets. Lisons la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute en l'instruction, en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc, on avait étudié, je crois, jusqu'au verset 8, hein, la dernière fois, j'ai vérifié mes notes. Hein. Donc, on s'est arrêté au verset 8. Donc, tout naturellement, on doit continuer au verset 9. Et donc, il y a deux choses qui sont dites là, ici, dans les versets 9 à 15. Si vous regardez bien, il y a d'une part, l'apôtre Paul parle de la tenue, on pourrait dire, de la femme, verset 9 jusqu'au verset 10. Et puis, j'ai envie de dire, verset 11 et à la fin, il parle de la retenue. Hein, tenue et retenue. Tenue dans les habits, dans l'apparence, et puis la retenue dans les paroles. Alors on va peut-être ce soir s'arrêter sur le premier aspect de cette exhortation. Et s'il nous était donné d'écrire certainement concernant l'attitude de la femme, nous n'aurions pas écrit comme l'écriture le fait ici. Peut-être en tout cas pas dans notre 21e siècle. Et il y a sans doute des sujets que nous n'aurions pas abordés. Ça c'est un texte que j'aurais pas abordé comme ça en prenant juste en ouvrant la Bible, on va utiliser cela. Mais l'avantage d'avoir une étude systématique, c'est qu'on ne doit pas sauter les différents passages, on est obligé de les voir. Alors, on a certes vu cela un petit peu déjà. Le dimanche, on avait parlé de la femme en général, c'est le dimanche de la fête des mères. Mais je peux vous dire que les prédicateurs non plus n'aiment pas forcément parler de ce de ces choses non plus. C'est pas n'est pas à l'aise à le faire. Mais il se trouve que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne doit pas la contourner. On doit forcément y pénétrer. La Bible dit, tu as donné tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et donc, il nous appartient de considérer chaque ordonnance que nous trouvons. Et le Seigneur met ces ordonnances-là sous nos yeux ce soir. Donc, l'apôtre Paul, dans cette lettre qu'il écrit, vous vous rappelez, il donnait des recommandations à Timothée. Hein? On avait trouvé ça déjà au début, verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation, la recommandation que je t'adressais à mon départ. Donc, il donne à Timothée des instructions concernant l'église d'Éphèse. Donc, il donne aussi quelque part de manière, on va dire indirecte, des instructions à l'église d'Éphèse. Et c'est ce qu'on a lu. Et après, au chapitre 3 et verset 14 et 15, je vous lis, il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc tout ce que nous lisons ici dans cette épître, on voit que l'apôtre Paul l'écrit à Timothée avec comme objectif de lui dire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Autrement dit, on ne se conduit pas comme on veut dans la maison de Dieu. Alors bien sûr, la maison de Dieu, c'est l'église, c'est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais la Bible dit aussi que le chrétien, il est quelque part le temple du Saint-Esprit, une maison de Dieu édifiée en esprit. Donc aussi, ça veut dire dans l'attitude de tous les jours. On ne peut pas dissocier l'église de notre vie, publique. En tout cas, le culte peut-être, mais l'église, elle est éclatée en semaine et puis elle est rassemblée aujourd'hui ou le dimanche. Mais quand elle est éclatée, c'est toujours les gens font toujours partie du corps de Christ et ils doivent toujours savoir comment il faut se conduire. Alors bien sûr, on peut penser qu'il y avait des problèmes de conduite au sein de l'église d'Éphèse, parce que le premier chapitre traite vraiment des fausses doctrines et de personnes qu'il fallait stopper dans leur propagation de vains discours. C'est ce qu'on trouve au verset 3 et au verset 7. Je vous rappelle, l'apôtre Paul dit que je t'ai laissé à Éphèse afin que tu recommandes à certaines personnes de ne pas enseigner des fausses doctrines. Et donc la recommandation, souvent sont données pour lutter, bien sûr, contre des tendances naturelles. Donner de faux enseignements, c'est une tendance naturelle. Parler et puis dire n'importe quoi, c'est une tendance naturelle. Et lorsque l'apôtre Paul, dans le chapitre 2, dit « J'exhorte tout homme à prier en tout lieu », certainement ici, parce que c'est une tendance naturelle de ne pas prier. Et de faire toute autre chose avant même de prier. La Bible ne recommande jamais de faire ce qui est naturel pour l'homme de faire. Et quand nous trouvons des recommandations, c'est parce que cela va à l'encontre de notre tendance naturelle. Donc il est important de les considérer parce que c'est sur ce chemin-là que le Seigneur veut qu'on aille. Donc certainement peu d'hommes priaient. Je ne sais pas, ou prier avec une mauvaise attitude, si on en juge le verset 8, où il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. » On peut penser qu'il y en avait peu qui priaient, on peut penser aussi qu'il y en avait qui priaient, mais priaient pas avec une bonne attitude. Et puis, on arrive au verset 9, où l'apôtre Paul parle spécifiquement des femmes. Et on peut penser qu'il y avait là aussi un problème, et que l'apôtre parle de leur... pour encourager à régler ce problème-là et à marcher dans la bonne voie. Et donc l'apôtre leur parle ici, et c'est clair, de leur tenue et de leur prise de parole dans l'Église. Alors je sais qu'en général, les femmes n'aiment pas qu'on parle de ce sujet. Pour avoir discuté avec beaucoup dans les foyers, dans les familles, etc., c'est toujours des sujets extrêmement clivants. Mais permettez-moi de vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que les prédicateurs non plus. Ils n'aiment pas trop en parler, mais nous sommes là devant la parole de Dieu, nous voulons bien sûr la considérer. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux anciens de l'église d'Éphèse, cette lettre est adressée à Timothée, qui est le pasteur de l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? Il l'avait rencontré, vous vous rappelez, quand il remonte à Jérusalem, il rencontre les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, et puis il leur parle, il leur donne des recommandations pour leur dire qu'il faut faire attention, il y aura des loups ravisseurs qui vont venir dans l'église, etc. Et parmi les choses, il a dit, qu'il avait dit, il y avait ceci, il avait l'esprit, il avait un Paul avec un esprit tranquille. Et l'une des raisons pour lesquelles il avait l'esprit tranquille, c'était ceci. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Acte chapitre 20, verset 26. Il dit, voilà, je suis pur du sang de vous tous, parce que je ne vous ai rien caché des ordonnances de Dieu. Et nous devons être aussi pointilleux pour ne rien cacher, ne rien ignorer des ordonnances que nous avons dans la Bible. Et celle qui consiste la tenue, particulièrement la tenue de la femme, est une ordonnance extrêmement importante. Alors, j'aimerais qu'on considère premièrement le commandement qui est donné ici, ou les commandements, je ne sais pas comment on pourrait le prendre, et considérer d'abord que c'est un commandement et pas un conseil. Paul ne dit pas ici, voilà, ça c'est mon point de vue sur la question. Ça c'est la manière avec laquelle je vois la chose. C'est mon opinion, mais enfin, chacun peut faire comme il veut. Qu'est-ce qui nous montre ici que c'est un commandement? Vous pouvez le trouver tout seul, ça, si vous regardez bien le passage. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Je veux aussi. Alors le aussi se rapporte à quoi ici? Le aussi se rapporte à ce qu'il vient de dire juste avant. Concernant les hommes, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je veux donc. C'est un commandement. Il n'est pas en train de dire, moi je pense que vous devriez prier, mais en fait vous faites comme vous voulez. Non, c'est un commandement. Il dit ici, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi. Et donc là, il faut mettre cela sous le même pied d'égalité. C'est aussi le commandement qu'il donne à destination des femmes, et il dit, je veux aussi que les femmes, etc., vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits précieux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Et donc, c'est important de considérer cela comme un commandement, et si on le prend comme un commandement, on doit déjà savoir qu'il faut que notre cœur s'incline à l'obéissance de ce commandement. Et sans obéissance, sans restriction. Donc la première attitude qui convient est celle de chercher à saisir ce que ce commandement dit et ensuite chercher à se soumettre à ce que ce commandement dit. Ça, c'est important. Donc ce qui est commandé ici, donc on a dit que c'est un commandement et non un conseil, ce qui est commandé ici, c'est quoi? Quelle est la substance du commandement qui est donné ici? Je ne sais pas comment vous pouvez le formaliser dans votre esprit, mais essayez de le faire pendant quelques secondes. Et puis voilà, comment on pourrait dire qu'est-ce que Paul commande, qu'est-ce que l'Écriture commande ici, particulièrement aux femmes. Alors moi j'ai mis comme ça, que la femme chrétienne doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. On pourrait dire, ça c'est le commandement qu'il donne. En gros, je pense qu'on est d'accord avec cela. La femme chrétienne doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous dites? Alors qu'on soit une femme ou un homme, hein, parce que ça concerne tout le monde. Quand vous lisez cela, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Si vous êtes soucieux d'appliquer le commandement de Dieu. De avant de pratiquer, il faut faire quoi? S'examiner, mais il faut très bien savoir ce que c'est. Et évidemment, si on ne sait pas de quoi il parle ici, je ne peux pas mettre en pratique. Je peux dire, oui, je m'habille de manière décente, mais ça, la question qui vient, c'est quoi? Qu'est-ce que la décence? C'est quoi la décence? C'est quoi la pudeur? C'est quoi la modestie? Si je n'ai pas réfléchi sur ces choses, je ne peux pas savoir comment je peux appliquer. Donc avant, c'est bien qu'il faut appliquer, mais avant d'appliquer, il faut comprendre au moins le plus possible. Je ne dis pas qu'on peut avoir forcément une compréhension parfaite, mais comprendre le plus possible et méditer le plus possible sur la chose, hein, ici. Donc, vêtu de manière décente, c'est ce que l'apôtre dit ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la décence? Alors, on en avait parlé un petit peu l'autre dimanche, mais si je prends, par exemple, la définition du Larousse, il dit que c'est être décent, c'est ce qui est convenable au regard de ce qu'il est normal d'attendre de ce que l'on considère comme juste, acceptable et correct. Hein, donc globalement, hein, c'est un petit peu comme cela que le dictionnaire le définit. Mais le mot qui est traduit par décence ici, c'est le mot cosmios. Hein. D'ailleurs, le mot qui est traduit par vêtu, c'est aussi le mot cosméo. C'est la même racine que le mot qui est traduit par décente ici. Et on avait dit cela, vous vous souvenez que ce mot, il renferme un mot que vous connaissez en français, que vous entendez en français, qui est la cosmétique. Déjà, cosmios, cosmétique. Donc le mot cosmétique vient de ce mot-là. Et donc, et il veut dire, en fait, régler dans sa conduite. D'ailleurs, il est utilisé comme, par exemple, quand il parle des diacres, qui doivent être, je pense, réglés dans leur conduite. C'est un petit peu le même sens. C'est être bien arrangé. Donc il dit que la femme doit être bien arrangée. C'est-à-dire, on ne vient pas en mode, comment ça s'appelle le truc là, je ne sais plus là, où on laisse les cheveux pousser, n'importe quel sens, et puis après, nappy, c'est ça? J'ai entendu, je ne sais plus, hein, en tout cas, aux Antilles, on dit ça, on laisse tout pousser, ça part en friche, comme c'est bon, nature. Hein. Non, il faut être habillé, correctement réglé, rangé, et suivant un certain ordre, c'est ce que ça veut dire. Mais on va continuer. Il parle aussi de la pudeur. Donc la pudeur, c'est la disposition à éprouver de la gêne, dit le dictionnaire, devant ce qui peut blesser la décence, ce qui est convenable. Alors, parfois on dit les gens ils sont sans pudeur. Ah, regardez-moi cette personne comment elle est vêtue, elle est sans pudeur. Ça veut dire qu'elle n'a aucune honte de ce que sa tenue pourrait provoquer chez les autres, un petit peu. Et de fait que c'est normal de s'habiller comme cela. Ça n'est pas correct de s'habiller comme cela. Un petit peu ça. Donc il y a l'idée d'une gêne, d'une honte, quelque chose qui peut blesser. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit comme ça. Hein. Devant l'évocation, parfois, il dit même de choses très personnelles, et en particulier l'évocation de choses sexuelles. Donc c'est manquer de pudeur. Hein. Parfois, les gens qui parlent de sexualité avec une légèreté, on dit qu'ils ces gens-là manquent de pudeur. Ils auraient dû faire preuve de retenue. Okay. Et donc, selon le dictionnaire biblique, le mot contient aussi le sens de honte. Il paraît que j'ai lu qu'il y a même le sens de un peu de baisser les yeux. Parfois, il peut être traduit ainsi par le mot piété. Mais il y a donc le sens d'être attentif à l'impact de ce que je fais pourrait avoir sur les autres, d'avoir un sens de l'honneur. Il exprime vraiment une honte et une gêne. On fait attention, parce que sinon on pourrait avoir... Oui, j'arrive à vous faire sentir ça un petit peu. Hein. Et puis, il y a aussi, l'apôtre Paul parle de la modestie. Et parfois, elle est traduite par le bon sens ou ce qui est modéré ou encore retenu parfois. Parfois, il parle de ce thème est traduit par la sobriété, et aussi parfois par l'autocontrôle. Donc, celui qui est modeste, celui qui se tient, on pourrait dire, hein, qui est modéré, tempéré. Parfois, on parle le mot la tempérance pour exprimer cela. Donc, quand Paul dit ici, je veux que les femmes soient vêtues de manière décentes, etc. Il parle de la manière avec laquelle elles doivent être vêtues, et cette manière de se vêtir a beaucoup à voir avec une règle, si on reprend un peu les définitions qu'on a données, avec une règle, avec quelque chose qui est propre, qui est organisé, ici, qui est bien rangé, et qui est selon une bienséance commune aussi. Mais il y a aussi l'idée d'être gêné même à la pensée qu'on pourrait blesser l'autre par l'extravagance ou l'indécence de la tenue. Et puis il y a aussi l'aspect de cette retenue, de ce contrôle de soi, c'est-à-dire du fait de freiner ce qui pourrait être naturel. Je peux m'habiller comme ça, je suis un homme ou une femme, voilà, je me sens bien comme ça. c'est naturel de faire comme on a envie de faire. Et la modestie fait que non, on freine ce qui est naturel. Il y a une retenue. Donc tout cela est à prendre en considération si on veut méditer sur ce que cela veut dire que ça, se vêtir de manière décente avec pudeur et modestie. Et ça, c'est ce sur quoi il faut vraiment méditer pour savoir comment je peux m'habiller. Et particulièrement ici, parce qu'il s'agit des femmes, comment elles doivent s'habiller. Il est naturel, n'est-ce pas, pour la femme de chercher à être, à paraître belle et attrayante. Normalement, il me semble que c'est naturel. Mais nous ne devons pas oublier que le diable utilise ce qui est naturel pour le détourner à de mauvaises fins. Lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, eh bien, Jésus avait faim, dit la Bible. C'est quelque chose de naturel. Passé 40 jours de jeûne, il avait faim. Et qu'est-ce que le diable fait? Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, il va se baser sur un besoin, qui est un besoin naturel, pour proposer de choisir une voie qui n'est pas celle que Dieu avait prévue. Détourner la chose. Donc la beauté, bien sûr, est un don de Dieu, mais ça peut devenir un piège. Ézéchiel 28, 17, je crois, parle du roi de Tyr, mais on associe cela aussi à Satan, où il dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle, roi. » Et il parle ici du roi de Tyr, ici, mais on dit que c'est une double prophétie qui parle aussi de la situation du diable. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 16, vous vous rappelez lorsque Dieu parle au peuple, mais il prend l'image de celui qui rencontre une femme qui est dans son sang, qui est sale, qui la lave, qui l'habille, qui la pare, il dit que c'était une fiancée, etc. Donc vous pouvez lire ça dans Ézéchiel, chapitre 16. Et puis quand vous arrivez au verset 15 d'Ézéchiel 16, alors je le lis pour vous, je ne l'ai pas noté, si quelqu'un le trouve avant moi, vous le lisez. Ézéchiel 16, verset 15, il dit « Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. » Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pour dire que, bon, c'est un don de Dieu là, que Dieu donne, la beauté, etc. Et on est sensible à la beauté. Mais on peut utiliser la beauté. La beauté peut devenir un piège. On peut se chercher tellement à être belle que ça finit par devenir un piège. Et Proverbe 7, 25-26 dit « Le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Il dit « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. » Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ça veut dire que voilà, le monde utilise la beauté comme un appât. Et les hommes, parce que là c'est des recommandations qui sont données aux jeunes hommes, d'accord, sont extrêmement sensibles à la beauté féminine. C'est pas de leur faute, c'est comme ça que Dieu les a fait. D'accord? Et c'est pas de la faute de la femme si elle est attirante, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Donc, il faut accepter ce que Dieu a fait. On ne rejette pas ici ce que Dieu a fait. Mais attention, on est en train de dire que le diable peut utiliser ces choses pour les détourner. C'est pour ça que la recommandation ici, il dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. C'est-à-dire que naturellement, tu seras attiré par sa beauté. Naturellement, tu vas faire attention à ses paupières, bien ceci, bien cela, etc. Il dit, stop, fais attention. Fais attention, ne te laisse pas prendre à cela. Il dit, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Verset 26, il dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée, dit-il, tend un piège à la vie précieuse. Et c'est une chose particulière. Je parlais avec un frère il n'y a pas très longtemps, après que j'ai prêché l'autre dimanche là, sur l'influence de la femme. Et il me dit, parce que j'avais dit dans la prédication que parfois, en tant que femme, on ne fait pas exprès. On s'habille sans faire attention, peut-être, de l'impact que cela peut avoir. Donc, ça n'est pas forcément volontairement que l'on fait quelque chose pour nuire aux autres. Et il m'a fait remarquer, il m'a dit, ça c'est vrai. Il m'a dit, là où j'ai un bémol, c'est pour les femmes mariées. Il me dit, quand une femme mariée s'habille n'importe comment, elle, mariée ou qui a été mariée, s'habille n'importe comment, elle sait ce qu'elle fait. Et quand j'ai lu ce verset l'autre fois, je me suis dit, ah, c'est vrai quand même ce qu'il disait. Parce qu'il dit, et la femme mariée tend un piège, il dit, à la vie précieuse. C'est-à-dire, il dit, donc, on ne dit pas que parce qu'on n'est pas marié, on peut faire n'importe quoi. Mais on dit, mais il faut être très attentif, très attentif. On peut faire des choses, on peut dire, bon, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais parfois, on sait quand même un peu ce que l'on fait. On sait que cela peut avoir une incidence sur les autres. Donc, il est important de considérer cela. J'avance un petit peu parce que sinon, le temps passe vite. Ce que Paul dit, entre autres, il donne des précisions utiles. Il dit que les femmes ne se parent. Donc là, on a vu que le fondement ici, c'est la modestie, la pudeur et la décence ici. Et il dit qu'elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Un commentateur dit ceci, il dit que Éphèse était une entité commerciale très riche et de très nombreuses femmes y rivalisaient pour attirer vers elles attention et popularité. Et à cette époque, une coiffure très onéreuse, ornée de bijoux, de valeurs, était un bon moyen pour se hisser dans la haute société. Et souvenez-vous d'ailleurs, lorsque Paul arrive à Éphèse, vous vous rappelez, et puis qu'il y a Démétrius, c'était qui Démétrius ? Un orfèvre. Et donc, il a mis toute la ville en émoi. Ici, c'était la place Vendôme de l'époque, hein, on pourrait dire. Hein. Donc, ils étaient vraiment très attachés à cela. Et donc, c'était pas. Et quelqu'un dit que les femmes de cette époque n'avaient rien à envier aux femmes d'aujourd'hui. Hein. Pas quoi qu'aujourd'hui on est plus sophistiqué, pas du tout. Hein, il y avait à cette époque-là déjà des gens qui étaient voilà, très attachés à l'or, à toutes ces choses. John MacArthur rapporte ceci. Il dit que il y a un poète hein, qui a écrit une satire au 1er siècle. Il dit ceci, il dit « Une femme se passe tout, rien ne lui paraît honteux. » C'était à cette époque, 1er siècle. Hein. Il dit « Du moment qu'elle peut se mettre au cou un collier d'émeraude et suspendre de grands pendants à ses oreilles distendues, que des tâches superposées, quelle substructure dans cet édifice dont elle charge et soulève sa tête. De son mari, dans tout cela, elle ne se préoccupe aucunement. » C'était un poète non chrétien hein, qui a écrit ces choses sur l'attitude déjà à cette époque. On est au 1er siècle. Hein, on est au 1er siècle ici. Donc, la question que je pose, est-ce que Paul ici donne une interdiction formelle contre les tresses, l'or, les perles et les habits, on pourrait dire, de marque ici? C'est important de considérer cela. Parce que ça veut dire. Interdiction formelle de porter aucun bijou, quel qu'il soit. Ou alors, quelqu'un va dire, oh, on peut porter de l'argent, mais pas de l'or, parce que c'est écrit de l'or ici. Hein. Bon. Ni de perles, ni d'habits, etc. Moi, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que cela, parce qu'on ne trouve pas dans l'écriture ici... En tout cas, dans ce texte-là, il n'est pas question d'une interdiction formelle. Dans le Proverbe 31 que vous avez lu tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué au verset 22 que l'auteur dit que la femme vertueuse, elle fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Ça veut dire qu'elle a des choses qui sont des vêtements de classe quand même quelque part. C'est pas la parole n'est pas contre les bijoux. Lorsque Élimélec, je pense, va rencontrer, comment il s'appelle ici, Rebecca, on sait Rebecca. C'est Eliezer, qu'est-ce que j'ai dit? Eliezer, c'est Eliezer, voilà. Le serviteur d'Abraham, bien, il lui offre, je crois, des bijoux, hein, beaucoup, hein, des bracelets, des bijoux, il dit, etc. Donc dans Genèse chapitre 24. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, alors là, il est question de cette fiancée qui est couvert de bijoux, tes joues sont belles au milieu de tes colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, etc. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent, etc. Donc je pense, Franchement, quand on lit l'Écriture, on ne trouve pas qu'il est dit, il est strictement interdit d'avoir des bijoux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul met en évidence ici? Ce contre quoi il combat, ce n'est pas le vêtement lui-même, ce n'est pas la coiffure, ce n'est pas l'objet d'or. Ce qu'il combat, je crois, avec sincérité, c'est que c'est cette manière, il dit ici, qui n'est pas décente, qui est sans retenue, qui n'a pas de pudeur dans la manière de se coiffer, de se vêtir et de porter des ornements. Ça, je crois qu'il est important de saisir cela ici. Et il montre que ces choses ont un, quand elles sont démesurées, immodérées, elles ont un impact sur les gens ici. Hein. Et Jean Chrysostome, qui est un père de l'Église, au IVe siècle, il écrit « De quelle parure veut-il parler ? » Il dit « D'une toilette honorable, convenable, exemple de superfluité. » Il dit « Car c'est ainsi qu'elles observeront la loi de la réserve. » Il dit « Quoi donc ? Vous venez prier Dieu et vous vous couvrez de bijoux, de frisures. » Il dit « Allez-vous donc danser ?» Il dit « Vous vous rendez-vous donc à des noces ?» Ou assistez-vous à une fête mondaine? Il dit, c'est là que les bijoux, les frisures, les riches vêtements ont leur place. Maintenant, qu'il n'en soit nul besoin. Il dit, vous êtes venus pour supplier, pour demander le pardon de vos fautes, la miséricorde pour vos offenses, pour fléchir votre maître par vos prières. Pourquoi donc vous parez de la sorte, quoi? Donc il dit voilà, il dit ici voilà ce dont il parle, c'est cette manière quoi de faire qui consiste à la première chose que l'on voit, c'est ça, c'est les ornements, les boucles d'oreilles, les anneaux, les colliers, les ceci, les cela, les vêtements, les chaussures et tout ce qui suit. Donc il ne dit pas qu'il faut pas porter de vêtements, il ne dit pas qu'il faut pas porter de chaussures, il ne dit pas qu'il faut pas porter de bijoux. Il dit que ces choses ne doivent pas être dans la démesure. Hein. Je crois que c'est ça qui est important de considérer ici. Et quelqu'un disait que souvent pour ce genre de coiffure-là, ça mettait beaucoup de temps. Il fallait plusieurs esclaves pour pouvoir coiffer et entremêler la coiffure avec les bijoux, etc. Et bien sûr, quand vous arrivez là, il y a un château sur une tête, vous le voyez. Hein. Ça se voit de très loin. Et donc, les gens sont détournés de l'essentiel par la tenue exagérée et immodérée que pouvaient porter ces personnes-là. Alors, il faut donc être attentif, je crois, aux bijoux que l'on porte. La discrétion, alors d'autres textes, par exemple, traduisent le mot modestie par discrétion, ici. Hein. Donc la discrétion dont il est question est importante ici. Je crois que la discrétion, c'est le maître mot. Pas la peine d'avoir des roues de bicyclette accrochées aux oreilles, d'accord? Si c'est pour hein, cogner tout le monde quand on dit bonjour, ça n'est pas la peine, d'accord? C'est important. Il faut faire attention aussi aux vêtements, parce qu'il n'y a pas que les bijoux. L'apôtre Paul parle des bijoux, parfois on insiste sur les bijoux, mais il parle aussi des vêtements ici. Et ça, c'est important. Et même pour les hommes, on parle des vêtements des femmes, bon, je veux pas que les hommes se sentent à l'aise. Non! Il y a des hommes qui portent des vêtements qui sont pas corrects aussi, hein. Et donc, il faut considérer, bien sûr, ces choses-là. Bon, mais c'est vrai qu'on parle particulièrement de la femme, alors on y va, hein. Il faut donc faire attention aux vêtements, chères sœurs. Ils sont de plus en plus courts, on le disait la dernière fois, de plus en plus serrés, de plus en plus suggestifs. Et ils montrent plus de choses qu'ils n'en cachent. Alors que la première fonction du vêtement, c'est de cacher. D'accord ? Lorsque Adam et Ève se sont trouvés, on a dit la dernière fois, le premier deal, pour dire comme les Américains, la première chose qu'ils ont eu à affronter comme problème, c'était leur nudité, juste après l'avoir. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il leur donne des vêtements pour cacher cette nudité. Et aujourd'hui, on fabrique des vêtements pour, pas pour être nus, mais pour suggérer la nudité. Hein, ce qui est comme au dire de certains, beaucoup plus puissant que la nudité elle-même. En général, les gens, la nudité, bon, hein, ils trouvent, à la limite, ils peuvent trouver ça pas très bien. Mais la suggestion de la nudité, C'est quelque chose qui est travaillé, si j'ose dire, artistement, et il faut que l'enfant de Dieu soit vraiment conscient de cela. Je parlais avec un frère, il y a le même frère d'ailleurs, il me dit ceci, il travaille dans un domaine avec des personnes de haut niveau, il me dit, j'ai une collègue qui est antichrétienne au possible. Il m'a dit, cette femme m'a dit, je crois qu'il faut que je m'achète une machine à coudre parce que je ne peux pas porter les vêtements que la mode nous fait porter maintenant. Ils sont vraiment trop courts. Une femme non chrétienne, il m'a fait remarquer, il m'a dit, il était... et c'est incroyable de voir parfois quand on est en... c'est vrai, on trouve pas. C'est vrai, on trouve pas. Les gens qui disent, oui, on cherche, on a beau chercher, on trouve pas des vêtements. Eh bien, il faut trouver le moyen d'en avoir. Hein. J'ai vu aujourd'hui sur Internet, il était écrit magasin pour femmes chrétiennes, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment c'était. Et il y avait jupe longue, tu vois, et robe longue. Si on trouvait ces choses-là. Mais après, il faut les commander. Bien sûr, ça ne va pas se trouver dans le centre commercial d'à côté, parce que on est dans la mode, d'accord ? Et c'est ça qui fait vendre. Mais celui qui cherche vraiment peut trouver, et j'ai trouvé ça cet après-midi sur Internet. Je continue, chers frères et sœurs. Quelle est la motivation du commandement ? On a vu le commandement, mais quelle est la motivation du commandement ? L'apôtre Paul dit, je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, on est d'accord, hein, il parle ici de la manière de s'habiller, de se vêtir, de se coiffer, de porter les choses. Il dit, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ici, je crois que la motivation est la suivante, c'est que la tenue immodérée, la tenue indécente, concurrence les bonnes œuvres. Paul dit ici qu'elle ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Ici, ça veut dire que lorsque l'on est préoccupé par voilà, faire paraître ces choses de plus en plus, eh bien, on est moins préoccupé par les bonnes œuvres. Et donc, que la tenue exagérée, immodérée, concurrence, ici, les bonnes œuvres. La Bible parle beaucoup de l'importance des bonnes œuvres. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tite 2:14 dit, même que Dieu, Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. D'accord, on pourrait continuer. Tite 2, l'apôtre Paul dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Puis un dernier, il dit par exemple, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc on voit ici avec le salut, l'apôtre Paul insiste sur l'importance des bonnes œuvres ici. Et il dit que la tenue, c'est ce que en substance ici, quand on est préoccupé par le paraître, on n'est pas préoccupé par les bonnes œuvres. Hein? Il y a une concurrence qui peut se faire dans ces choses. La concurrence, c'est la tenue, ici, ce qu'il souligne, est modérée. La construction de cette phrase suggère voilà, que mettre l'importance sur l'un minimisera l'autre. Celui qui est préoccupé par les bonnes œuvres, préoccupé par Dieu, par comment lui plaire, etc., fera forcément attention à comment il s'habille. Il ne voudra pas faire des choses qui peuvent être détourner l'attention de Dieu. C'est un peu ce que Paul dit, je pense, ça me vient à l'esprit maintenant, mais quand il dit dans 1 Corinthiens 7 que la femme qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur et que celle qui est mariée s'occupe ou des manières de plaire à son mari. D'accord ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a parfois des préoccupations. Il ne dit pas que ce n'est pas bien de se préoccuper de son mari. Mais il dit, mais il faut savoir que lorsque vous avez un mari, eh bien, il faudra vous en occuper. Et vous aurez peut-être moins de temps pour vous verser vraiment pleinement dans les choses du Seigneur. Alors, il dit, je préfère que vous soyez comme moi. Bon, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais quand on est jeune, mais c'est ce qu'il dit ici. Hein. Et donc, on pourrait dire la même chose. Celle qui est préoccupée par son apparence, qui passe des heures à se monter des coiffures, etc., pour paraître, eh bien, il y a des... Je crois que l'apôtre dit ici qu'elle ne sera pas tournée vers les choses, vers les bonnes œuvres. Et Pierre souligne la même chose quand il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » Alors là, je vous fais souligner qu'il dit « Et les habits qu'on revêt. » C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas chercher à porter des habits qui sont somptueux, excessifs. Mais il dit pas qu'il faut pas se revêtir d'habits, hein. Donc, vous voyez, tout ce qu'il dit là, il dit pas que c'est pas des choses qu'il ne faut pas faire absolument. Il dit, il ne faut pas chercher ici, il faut plutôt chercher là-bas. Et là-bas, c'est la parure intérieure est cachée, incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Donc, la tenue parle plus fort qu'on ne le croit. Je crois que c'est important de noter ça. La tenue parle plus fort qu'on ne le croit. J'ai trouvé souvent cet adage, il dit « Montre-moi comment tu t'habilles et je te dirai je te dirai qui tu es. » Parfois, c'est peut-être un peu excessif, mais je crois qu'il y a du vrai dans cela. Et ce que l'apôtre Paul souligne, c'est qu'il faut que l'apparence extérieure soit en accord avec la profession verbale intérieure. Il dit, verset 10, « Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui professent, c'est-à-dire qui disent, qui affirment servir Dieu. La tenue, parce que la tenue dit quelque chose de ce que nous sommes. Ça parle beaucoup plus fort, hein, qu'on ne veut bien le croire. Quel est ce qui revient, peut-être pour poser la question, le plus naturellement à la pensée lorsque on pense à telle femme chrétienne, par exemple? On peut se poser la question. À quoi est-ce que les gens pensent en premier? Est-ce qu'on pense, ouais, cette sœur, c'est... Oh, c'est... Hein, c'est la tenue, ah ouais, là, c'est vraiment la classe, etc. Bon, c'est toujours tiré en quatre épingles. Bon, où est-ce que c'est... Ah, c'est une femme pieuse. Et je crois que... On retient de quelqu'un ce qui est le plus apparent. Ouais. Si c'est la piété, c'est ça qu'on va retenir. Si c'est le faste des habits, c'est ce que l'on va aussi retenir. Donc le message communiqué par la tenue est plus audible que le message véhiculé par la parole. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Quand il dit qu'elle se parle plutôt de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui professent de servir Dieu, il dit ici que la tenue, parce qu'il dit non ça, mais ça, ça veut dire que la tenue immodérée là-bas communique davantage que les mots. On aura beau prononcer des paroles, si la tenue dit quelque chose d'autre, les gens vont retenir la tenue. Les gens vont retenir la tenue. Et ça, c'est important à considérer. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Tite, dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur doit rendre témoignage de la réalité intérieure. Donc ça, c'est important. La tenue parle plus fort qu'on ne croit. Le message qui est communiqué par la tenue est plus audible souvent que le message véhiculé par les mots. On retient, on dit dans le monde qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et je crois que là, ça se vérifie. C'est-à-dire qu'une image... La tenue, parfois, parle plus que 1000 mots. Et il faut être conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que, l'apôtre Paul dit, il faut faire ce qui convient. Il faut que l'extérieur convienne à l'intérieur, pour que le témoignage ne soit pas brouillé. Et puis, je crois que la motivation ici, c'est L'excitation pour ceux qui s'habillent aux bonnes œuvres et non à la tentation. L'excitation aux bonnes œuvres et non à la tentation. La tenue immodérée attire l'attention sur soi et la détourne de Dieu. Okay. Et elles peuvent être aussi parfois, bien sûr, provocantes et induire à la tentation. Et il faut être sensible à cela. L'influence que doivent avoir les croyants, les croyantes, est l'excitation aux bonnes œuvres. Il dit ici qu'il se parle de bonnes œuvres, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'Écriture nous enseigne que nous devons exciter les autres aux bonnes œuvres. Écoutez ce que Hébreux 10, 24 dit. « Veillons les uns sur les autres. Je veille sur toi, mon frère, ma sœur, toi tu veilles sur moi, etc. Nous veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Donc ce verset fait vraiment mesurer notre responsabilité à l'égard des autres. Parfois, il y a des femmes qui disent... J'ai déjà entendu ça, c'est ce que je dis. Il dit, ça c'est le problème des hommes. Ils n'ont qu'à pas regarder, ils n'ont qu'à faire attention, ils n'ont qu'à se tenir droit. C'est à eux, moi j'ai pas de problème avec ça, c'est eux qui ont des problèmes, ils n'ont qu'à pas regarder, c'est tout. Hein? Mais la Bible dit que nous devons nous exciter aux bonnes œuvres. Et je dois être attentif pour ne pas inciter à la tentation. À l'exciter à la tentation, mais plutôt aux bonnes œuvres. Arthur Pink écrit ceci, c'est un auteur ancien, il dit « Si regarder pour convoiter est un péché grave, si grave, c'est vrai. » Il dit, Dieu dit, Jésus dit aux hommes, dans Matthieu, il dit « Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. » Il fait peser une forte responsabilité rien que sur le regard. Il n'y a pas d'acte. Il y a le regard, il dit le cœur, il a déjà commis l'adultère. Et c'est extrêmement grave, dit Jésus. Mais cet auteur dit que si regarder pour convoiter est un péché si grave, alors celles qui s'habillent et qui s'exposent avec le désir qu'on les regarde et qu'on les convoite ne sont pas moins, mais peut-être même plus coupables. Dans ce domaine, non seulement les hommes pêchent trop souvent, mais les femmes les incitent à le faire. Alors, combien grande doit être la culpabilité de la vaste majorité des demoiselles modernes qui cherchent délibérément à éveiller les passions sexuelles des jeunes hommes. Et encore plus grande la culpabilité de la plupart de leurs mères qui les laissent devenir des tentatrices lascives. C'est 1774, c'est des auteurs anciens, mais c'était des gens qui étaient très rudes, c'est vrai, j'avoue, hein. Mais ce qu'ils disent est vrai. Hein. Le commandement que Dieu donne aux hommes de ne pas pécher concerne aussi les femmes. Et le commandement que Dieu donne aux femmes pour ne pas pécher concerne aussi les hommes. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, dès que quand la Bible dit à l'homme, tu ne commettras point d'adultère, et si tu regardes une femme avec concupiscence, tu as commis l'adultère, la femme doit considérer cela et dire, ah, il faut que je fasse attention pour que je n'entraîne pas mon frère dans le péché. Je vais m'habiller correctement pour ne pas être une pierre d'achoppement pour mon frère. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on est coupable lorsqu'on n'est pas animé par la pensée d'aider l'autre aussi dans sa manière de vivre la vie de piété. Et l'apôtre Pierre disait, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Il dit ici, voilà, il faut avoir une attitude telle que, même à l'extérieur, ce soit les bonnes œuvres, ils remarquent votre tenue, ils remarquent votre toilette, ils remarquent la boucle d'oreille, ou je sais pas moi, la chaîne, ou la montre, etc. Il dit qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, il faut agir de manière à ce que les bonnes œuvres surpassent la tenue, ici. Et je termine, parce que le temps avance, chers frères et sœurs, quelques conclusions. Le chrétien, donc, ici, la chrétienne doit considérer que la question de la tenue est une question extrêmement importante. Ça n'est pas rien. Il ne faut pas faire comme si c'est pas anecdotique. Hein. C'est pas anecdotique. Je crois que ce que l'apôtre Paul dit ici le montre bien. Est-ce que le chrétien a un dress code? Quelle question vous posez-vous lorsque vous achetez un vêtement? Ça peut considérer les hommes ou les femmes, mais quelle question vous vous posez quand vous achetez un vêtement? Ah, ça c'est à la mode, j'aime bien. Ou est-ce qu'il y a des considérations spirituelles qui viennent à votre esprit. Le mot modestie, le mot pudeur, le mot décence, qu'est-ce que ça veut dire? L'effet que cela va avoir sur les autres. Est-ce que cela ne détournera pas la pensée des autres du Seigneur? Est-ce que ce sont ces choses qui nous animent ou est-ce que c'est j'aime ou j'aime pas? C'est important de considérer ces choses. Il faut noter ici que l'apôtre Paul ne dit pas quel vêtement porter précisément. Vous avez remarqué? Il ne dit pas quel vêtement porter précisément. Mais il insiste sur la disposition intérieure qui doit présider à l'apparence extérieure. Il parle de l'extérieur qui convient. Il ne dit pas ici l'extérieur qui me convient. Il ne dit pas non plus l'extérieur qui convient à l'autre. Il ne dit pas non plus l'extérieur qui convient à la culture dans laquelle je vis. Il dit l'extérieur qui convient. Mais qui convient à qui? À qui? À Dieu. Eh oui, qui convient à Dieu? Dieu tel qu'il est décrit dans sa parole. Donc il est important pour nous de méditer, de réfléchir à ces choses-là. Il parle de décence, de pudeur, de retenue. Il est important de savoir qu'est-ce que cela veut dire, hein, ici. Quand je vais acheter des vêtements, quand je vais acheter des chaussures, hein, que je vais monter sur des échasses de 15 cm, je ne sais pas, peut-être j'exagère un peu. Tiens, je regardais comme cela, je me suis dit, tiens, talon haut. Hein? Oui, parce que... Et il y a un homme, un chercheur qui a fait des études scientifiques, avec des tests, sur les talons. Et il a fait remarquer ceci, il a dit que lorsque... Je vous pose la question dans votre esprit, surtout les dames, quand vous mettez des talons hauts, à quoi vous pensez? Par exemple, voilà, je donne juste un exemple. Et il dit ici, pendant que vous réfléchissez, je vous donne l'histoire. Il dit ici, ils ont fait un test dans la rue, c'est-à-dire un reportage, ils ont donné à des femmes, 20 ans, 25 ans, un sondage à faire dans la rue, donc ils devaient arrêter des hommes et demander, et c'était un sondage sur l'égalité homme-femme. Et il a dit, les premières femmes avaient des talons plats. Et il a dit, à peu près 45% des hommes se sont arrêtés pour répondre à leurs questions. Après, ils ont fait porter les femmes des talons de 5 cm. Il a dit 63% des hommes se sont arrêtés. Et puis après, ils sont passés à 9 cm de talons et talons noirs. Il a dit que 83% des hommes se sont arrêtés pour répondre au questionnaire. Et il a dit que les hommes sont extrêmement sensibles à cela. D'accord? Ils sont sensibles à cela. Ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que si on dit je me mets sous des talons hauts pour être plus proche du ciel, je veux bien. Je veux bien. Mais est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? On doit être honnête. Hein? On doit être conscient de l'effet que cela a sur les autres. C'est-à-dire que quand je veux mettre des talons hauts, ben, le frère qui est à côté, c'est un homme comme celui de la rue, hein? C'est pas un autre, hein? Oui, il est sauvé, d'accord, mais c'est un homme. Il est fait de la même chair. Il a les mêmes yeux, d'accord. Et il réagit, peut réagir de la même. Ah, il se retient parce qu'il est au Seigneur. Il fait des efforts, bien sûr. Mais je suis responsable. Je suis responsable pour ce que je fais. Donc, il est important. Quand je cite ça, je dis ça pour dire qu'il faut réfléchir, il faut méditer. Je veux blesser personne. Je veux simplement. Il faut que nous, hommes et femmes, nous réfléchissions sur ce que nous portons. On ne peut pas porter simplement. Il faut chercher, méditer. Est-ce que cela a un impact sur quelqu'un? Et qu'est-ce que cela va faire? On ne peut pas juste dire, je m'habille comme ça parce que ça me plaît, parce que je me sens élégante comme ceci. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut inclure le terme de décence, de pudeur. Et de modestie, d'impact sur les autres et de détournement ou non du Seigneur Jésus-Christ que je peux engendrer. Il y a toutes ces choses-là que je dois considérer dans les choses que je fais. Et vraiment, si c'est le Seigneur que je veux suivre, eh bien, il me donne un cœur pour, bah, tant pis, peut-être que j'aime les talons hauts, peut-être que j'aime les vêtements serrés, j'en sais rien, mais je sais que cela ne sera pas dans le sens de la piété que Dieu veut pour moi. Il faut que je m'en écarte. Ça ne convient pas. Il faut le vêtement qui convienne et qui convienne à Dieu. Voilà. Je m'arrête ici parce que je sais que je pourrais parler pendant 2 heures, mais c'est un thème qui me tient à cœur aussi un peu. Mais que le Seigneur nous aide, hein, hommes ou femmes, parce que les hommes aussi, on a parfois des manières de nous habiller qui ne sont pas correctes, et que le Seigneur nous convainque. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Ça ne me gêne pas. Je veux que vous soyez d'accord avec l'Écriture. Si c'est ce que l'Écriture dit, vous devez être d'accord avec. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et je te demande que tu nous aides encore à considérer ces choses. Et je sais que je peux être maladroit dans la manière d'exprimer. Et je te demande de permettre que, Seigneur, ce qui a peut-être pu être mal expliqué, que ton esprit, qui est le divin enseignant, puisse le rendre clair à nos pensées, à tous, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.